À demain sur RFI.
RFI 23h30 à Paris et Kinshasa, 22h30 en temps universel.
Afrique Soir.
Et toute l'actualité africaine, c'est avec vous, Zéphirin Kouadio. Bonsoir, mon cher Zéphirin.
Bonsoir, mon cher Mathis Slimano. Bonsoir à toutes et à tous. À la une des négociations de paix entre Kinshasa et le M23, mardi 18 mars prochain, annonce de la présidence angolaise ce mercredi soir. La présidence congolaise a confirmé ce soir avoir reçu une invitation, mais ne confirme pas encore sa participation. Au Tchad, notre confrère Olivier Monodi et trois autres personnes inculpées pour intelligence avec une puissance étrangère, atteinte à la sûreté de l'État ou encore complot, devraient être entendus pour la première fois ce jeudi par le juge d'instruction en charge du dossier. Nous irons aussi en Centrafrique où Bangui, la capitale, est plongée dans le noir depuis 3 jours. En cause, une panne du réseau électrique. La direction de l'énergie centrafricaine promet dans un communiqué la résolution du problème dans les meilleurs délais. Reportage à suivre. Nous reviendrons également sur cette nouvelle scène de massacre de civils au Burkina Faso. Massacre perpétré en début de semaine dans l'ouest du pays par des militaires contre des communautés soupçonnées d'être de mèche avec des terroristes. À retenir aussi notre dossier consacré aujourd'hui à l'opération de séduction du président ghanéen au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Le dirigeant ghanéen affirme la nécessité que la CDAO reconnaisse l'AES, l'alliance des trois pays qui ont rompu avec l'organisation régionale. Oui, l'Angola annonce ce soir dans un communiqué de la présidence que des négociations de paix directes auront lieu mardi 18 mars à Luanda. Négociations entre les délégations de la République démocratique du Congo et du M23. Mardi 11 mars, les présidents congolais et angolais Félix Tshisekedi et João Lourenço se sont rencontrés à Luanda. C'est après ce rendez-vous que l'Angola, qui assure la médiation dans cette crise, a annoncé son intention d'ouvrir des pourparlers entre Kinshasa et le groupe armé AFC M23. Mais l'annonce suscite des interrogations. La présidence congolaise a confirmé ce soir avoir reçu une invitation, mais ne confirme pas encore sa participation. À Kinshasa, les précisions de Patient Ligodi.
Une rencontre de haut niveau entre les autorités congolaises et angolaises était bien prévue lundi 10 mars à Luanda, mais n'a finalement pas eu lieu. Mardi, les choses se sont accélérées et avec une délégation restreinte, le président congolais Félix Tshisekedi s'est rendu dans la capitale angolaise. La question des échanges directs entre Kinshasa et l'AFC M23 a bien été abordée. Cependant, la position officielle de Kinshasa demeure inchangée. Pas de discussion directe avec l'AFC M23, affirme l'entourage du président congolais. Interrogé par RFI, la porte-parole de Félix Tshisekedi, Tina Salama, a confirmé qu'une invitation avait été envoyée aux autorités congolaises, tout en insistant sur le cadre précis des échanges.
Si ça devait se faire, en tout cas, ça doit être dans le cadre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui nous renvoie aux deux processus, donc Luanda et Nairobi. Et pas que la résolution du Conseil de sécurité, il y a également les résolutions, on va dire, les conclusions du sommet de Dar es Salaam, qui également propose que tout se passe dans le cadre de ces deux processus, donc Luanda, pour les discussions politiques entre États avec le Rwanda, et puis Nairobi avec les groupes armés. Et c'est dans ce cadre-là que nous estimons que l'M23 devrait faire partie.
De son côté, l'AFC M23, également en contact avec Luanda, reste silencieux et s'abstient de tout commentaire.
Patient Ligodi. Et pendant ce temps, Human Rights Watch s'inquiète du rétrécissement de l'espace civique dans les zones contrôlées par le M23 dans l'est du pays. Dans un rapport diffusé ce mercredi, l'ONG de défense des droits humains affirme que les rebelles soutenus par le Rwanda ont procédé à de nombreuses pressions et arrestations d'activistes de la société civile et de journalistes, allant jusqu'à assassiner certains d'entre eux, dont le chanteur Delka Idango, tué le 13 février dernier. À l'époque, le M23 avait rejeté toute responsabilité dans le meurtre de l'artiste, mais des photos analysées par Human Rights Watch remettent en question cette version. Le chanteur apparaissant mort avec un pantalon blanc sur certaines photos, puis en treillis sur d'autres, laisse penser à une mise en scène pour Clémentine de Montjoie, chercheuse à la division Afrique de l'organisation non gouvernementale.
On peut certainement dire qu'il a été tué par multiples blessures sur le corps et à la tête. Des experts médico-légaux que nous avons consultés ont conclu qu'il semblait se protéger la tête avec ses bras lorsqu'on lui a tiré dessus. Et enfin, lorsque nous avons échangé avec M. Kanyuka, le porte-parole de l'AFC, il nous a confirmé que les M23 avaient tué Delcati Dengo car, je cite, ils avaient interdit à la population de porter des insignes militaires et qu'ils l'avaient trouvé chez lui lors d'une opération de ratissage. Dans ce contexte-là, on voit effectivement un rétrécissement de l'espace civique. Beaucoup de défenseurs et de journalistes qui sont très inquiets pour leur sécurité, qui vivent en cachette, qui disent qu'ils peuvent pas rentrer chez eux, dont le domicile est visité par des combattants M23 et dont les familles parfois sont inquiètes de se retrouver menacées aussi. Il est difficile pour les gens de fuir aujourd'hui. L'aéroport de Goma est encore fermé. Les gens se sentent surveillés et les mouvements contrôlés. Et on a vu plusieurs cas où les autorités rwandaises auraient détenu des activistes qui cherchaient à fuir le Congo en passant par le Rwanda.
Clémentine de Montjoie, à propos recueilli par Paul Lorgerie. Et puis dans un tweet, les rebelles se défendent d'avoir arrêté ou maltraité des journalistes et des activistes. Ils dénoncent, je cite, un abus d'influence pour ternir l'image de leur organisation. Au Tchad, notre confrère Olivier Monodji et trois autres personnes inculpées lundi pour intelligence avec une puissance étrangère, atteinte à la sûreté de l'État ou encore complot, ils devraient être entendus pour la première fois ce jeudi par le juge d'instruction saisi de l'affaire. Les avocats du directeur de publication de l'hebdomadaire Le Pays, qui est également un de nos correspondants à N'Djamena, ont estimé que le dossier du procureur était vide. Les organisations de la presse locale expliquent pour leur part que les fait présenter la publication de publics reportages en lien avec la Russie et le partage d'informations déjà accessibles au public relevait tout au plus du délit de presse et certainement pas d'incrimination aussi grave et passible de peine pouvant aller jusqu'à 30 ans de prison. Une situation qui inquiète notamment Reporters sans frontières. Sadibou Marong est le directeur du bureau Afrique de Reporters sans frontières.
On se rend compte que le parquet a en tout cas véritablement corsé son accusation en retenant des charges très lourdes à l'encontre de ces trois journalistes. Complot contre l'État, complicité, cela fait très très lourd. Peut-être que le parquet chercherait à faire sortir ces charges-là, disons, du champ de la loi, notamment la loi sur la presse qui met fin aux peines privatives de liberté pour certains délits de presse. Dans tous les cas, on en saura davantage avec la nouvelle audition prévue. Mais il est clair que la place de ces journalistes n'est pas fondamentalement la prison. Nous connaissons très bien la pratique professionnelle d'Olivier Monodji, de son journal Le Pays. Nous pensons qu'Olivier lui-même, il est un journaliste très équilibré. Le Pays aussi est un journal très équilibré. Nous souhaitons donc que l'audition aboutisse à leur libération et nous en profitons aussi pour appeler les autorités tchadiennes à surtout permettre aux journalistes de faire leur travail sans crainte ni surtout représailles.
Un propos recueilli par François Mazé. Bangui, la capitale de la Centrafrique, est plongée dans le noir depuis 3 jours, à l'exception de quelques administrations et hôpitaux qui bénéficient momentanément de quelques heures d'électricité. Presque tous les quartiers de la capitale sont privés de courant. L'énergie centrafricaine, l'ENERCA, est à pied d'œuvre pour pallier ce problème. En attendant, de nombreuses administrations fonctionnent avec des groupes électrogènes. Reportage, Rolf-Steve Domielleux.
À peine 19h, les quartiers du 4e arrondissement de Bangui sont plongés dans le noir. Il n'y a pas d'électricité depuis 48 heures dans le secteur. Ce problème a modifié le quotidien de Magloire.
Il n'y a pas de courant et je ne sais plus quoi faire. Chez moi, nous sommes obligés de ranger la télévision, le congélateur et nos téléphones. Nous utilisons les moyens traditionnels comme la lampe tempête, les bougies ou la torche.
Au quartier de Miskine, dans le 5e arrondissement de Bangui, Caroline, une veuve de 50 ans, vend de l'eau glacée pour subvenir aux besoins de sa famille. Avec ce problème d'électricité, elle n'arrive pas à joindre les deux bouts.
Sans électricité, c'est la mort. Je ne peux pas brancher mon congélateur et c'est difficile de trouver de l'eau courante au robinet. Mon business s'est arrêté. À l'heure actuelle, c'est très compliqué de vivre.
Dans un communiqué publié mardi, la Direction générale de l'énergie centrafricaine ENERCA a signalé une panne technique survenue sur l'une de ses installations. Pour constater les faits, le ministre de l'énergie Arthur Bertrand Piri s'est rendu sur place.
La panne ici au niveau de Gobongo est localisé. Les collaborateurs de l'ENERCA sont dessus. Ils sont en train de procéder à la réparation. J'ose croire que bientôt on va revenir à l'exploitation normale.
Mais pour l'instant, les techniciens de l'ENERCA n'ont pas donné une date précise de la reprise normale de distribution de l'électricité dans la capitale. Rolf Estève, Domiale, Bongui, RFI.
Retour à présent sur cette nouvelle scène de massacre de civils au Burkina Faso. Massacre perpétré en début de semaine dans l'ouest du pays entre Bobo Dioulasso et Luna. Plusieurs villages ont été ravagés par les forces militaires burkinabées. Le récit de Frédéric Garrard.
Les images qui circulent sur les réseaux sociaux sont parfaitement abominables. Des hommes armés enjambent des dizaines de corps, soit ligotés, soit abattus sans autre forme de procès. Couché à même le sol contre un de ses parents, on aperçoit un bébé de quelques mois qui semble hurler à gorge déployée, la bouche dans la latérite. Pour ajouter à ce macabre spectacle, une autre vidéo montre un triporteur chargé de dizaines de corps, morts ou vivants, difficile à dire, un tas d'humains sur lequel s'assoient sans le moindre respect deux membres des VDP plaisantant avec leurs camarades. Ces scènes se sont passées entre lundi et mardi dans différents villages de la zone de Solenzo et elles se poursuivent encore selon certains témoignages que nous avons recueillis. La version véhiculée par les supporters de la junte burkinabé tente à justifier ces razzias contre des voleurs de bétail et des complices de terroristes que trois bataillons d'intervention rapide auraient neutralisés avant de récupérer le cheptel. Une autre version, plus officieuse, accrédite plutôt la thèse d'expédition punitive contre la communauté Peul, suspectée d'être de mèche avec les terroristes qui sévissent au Burkina Faso.
Un récit signé Frédéric Garrard. Et puis en Sierra Leone, le chef de l'immigration renvoyé après une vidéo compromettante avec un trafiquant de drogue. Vendredi dernier, jour du renvoi de M. Canet, le site d'investissement européen Follow the Money a publié une vidéo montrant le chef de l'immigration Hilar recevant un cadeau de Jos Leijdekkers, un des fugitifs les plus recherchés d'Europe. Surnommé Chubby Jos ou encore Omar Sheriff, le trafiquant néerlandais est considéré par Europol comme l'un des acteurs majeurs du trafic international de cocaïne et se trouverait en Sierra Leone depuis plusieurs mois, selon le parquet des Pays-Bas. La coordination des forces libres du Niger, le CFLN, dément dans un communiqué toute libération de Mahmoud Salah, président du Front Patriotique de Libération, arrêté le 23 février dernier par les forces du maréchal Haftar alors qu'il se rendait dans le sud de la Libye. Mahmoud Salah est toujours détenu à Benghazi, selon le CFLN, qui déplore que des rumeurs infondées sur sa libération aient été relayées par certains médias. Dans le même communiqué, le CFLN informe avoir confié à sa présidence à Mahamat Tori du Front Patriotique pour la Justice, le FPJ, afin d'assurer la poursuite des opérations conjointes. Fin de citation. Le président ghanéen John Dramani Mahama a achevé lundi sa tournée des pays de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Au-delà des déclarations sur le renforcement des relations bilatérales, économiques et sécuritaires, le président ghanéen a tenu des propos qui ne sont pas passés inaperçus. John Dramani Mahama a évoqué en effet la réalité irrévocable que constitue l'AES, reprenant ainsi à son compte le vocable des trois pays, alors que la CDAO tente toujours de les réintégrer en son sein. Il a aussi affirmé la nécessité de la reconnaissance de l'AES par la CDAO. Bonsoir David Bachir.
Bonsoir Zéphirin.
C'est le dossier donc de cette édition. Comment comprendre cette proposition? Quelle suite pourrait-elle connaître, David?
Alors le premier point, Zéphirin, c'est que cette proposition n'a pas été discutée, encore moins décidée, au sein de la CDAO. Plusieurs cadres de l'organisation ouest-africaine l'ont indiqué à RFI. C'est une initiative du président ghanéen qui n'engage que lui. Certains acteurs ont même été mécontent de constater que John Dramani Mahama reprenait à son compte le caractère irréversible de la décision des trois pays de claquer la porte, alors que la CDAO s'est donnée jusqu'à fin juillet pour les convaincre de revenir. Ceci dit, ce départ est effectif depuis janvier et l'AES est une réalité. La reconnaître, c'est donc à minima ne pas se cacher les yeux. Cela pourrait même être davantage. La CDAO et les trois pays doivent négocier les modalités de sortie. Ces négociations n'ont pas commencé. Elles pourraient se faire pays par pays, avec le Mali, le Niger et le Burkina, ou entre blocs CDAO et AES. C'est d'ailleurs la demande des trois régimes militaires. La CDAO acceptera-t-elle? Certains acteurs plaident pour, dans l'idée d'apaiser les tensions, de favoriser une sorte de divorce à l'amiable. La reconnaissance de l'AES comme communauté économique régionale, au même titre que la CDAO ou la SADC, serait encore un palier supplémentaire qui semble moins accessible. En tout état de cause, le président président ghanéen n'a pas précisé sa pensée et ni la CEDEAO ni aucun chef d'État ouest-africain n'a réagi jusqu'à présent à cette proposition.
Eh bien, merci David Bachet pour cet éclairage. On poursuit la réflexion, cette fois avec l'économiste malien Modibo Mao Makalou, ancien conseiller à la présidence, aujourd'hui à la tête du cabinet de conseil IBS. Modibo Mao Makalou, invité d'Afrique Midi, interrogé par Nicolas Sûr. Il nous donne quelques éléments de compréhension de l'opération séduction du président ghanéen.
Le Ghana est quand même le chantre du panafricanisme et de l'intégration africaine. D'abord, au niveau de la création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963, qui est devenue par la suite l'Union africaine, notamment le rôle éminent que le Ghana a joué à travers le président Kwame Nkrumah. Et vous savez aussi que le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine se trouve au Ghana. Donc, évidemment, le Ghana, en tant que chantre du panafricanisme, a un rôle prépondérant dans l'intégration africaine, mais aussi le Ghana est un pays anglophone qui peut mieux dialoguer, je pense, avec ces trois pays francophones qui sont dans une passe un peu délicate avec certains de leurs voisins, surtout francophones. Je pense aussi que le président Dramani Mahama est vu avec un préjugé plutôt favorable.
Notamment parce que le Ghana n'aurait pas cette étiquette de complicité avec la France ou d'agir selon les intérêts de la France. C'est ça que vous nous dites.
Cela est très important, oui, parce que cela est vu comme une mission de bons offices d'un pays africain qui n'agit pas pour le compte d'autres puissances. Et je pense que cela aussi est très important pour nouer, renouer ce dialogue. Et je pense aussi le fait que le Ghana vienne non seulement pour parler des relations entre l'AES et la CEDEAO, mais aussi sur le plan bilatéral, au niveau du commerce, le corridor
Alors,
sud.
Oui, si vous voulez, on va revenir spécifiquement sur ce point. Pensez-vous que le président ghanéen pousse aussi ses pions dans les pays de l'Alliance des États du Sahel parce que son pays a des intérêts sécuritaires et économique à défendre?
Absolument. Je pense que c'est bien joué de la part du président ghanéen. Parler avec les trois chefs d'État de l'AES, c'était bien indiqué. Et je pense aussi que le fait que le Ghana, qui quand même est le premier producteur d'or africain, et vous n'êtes pas sans oublier que le Mali et le Burkina sont de très importants producteurs d'or en Afrique, notamment troisième et quatrième. Donc je pense que le fait que les pays se parlent au niveau du commerce et des investissements, cela est une très bonne chose. Mais vous savez aussi qu'il n'y aura pas de paix sans développement et que la crise au Sahel s'est métastasée et que actuellement le golfe de Guinée est très menacé par les groupes terroristes et les groupes armés aussi. Cette lutte ne peut avoir de solution sans une coopération sous-régionale et régionale.
L'économiste malien Modibo Mao Makalou, interrogé par Nicolas Sûr. Le risque d'une reprise de la guerre civile au Soudan du Sud inquiète ses voisins. C'est pourquoi le bloc régional IGAD, qui comprend 8 pays d'Afrique de l'Est, a organisé un sommet extraordinaire de ses chefs d'État en visio ce mercredi. Seuls les présidents djiboutiens et somaliens ont participé en personne. Les autres chefs d'État étaient représentés par des ministres. Le Soudan du Sud, lui, était simplement absent. Ce mercredi soir, dans un communiqué, les leaders d'Afrique de l'Est se sont dit préoccupés par la montée des tensions à Djouba. Ils ont notamment demandé la libération des membres de l'opposition détenus et préconisé des mesures pour sauver l'accord de paix de 2018 dont l'IGAD est le principal garant. À Djouba, les précisions de Florence Pietto.
Si les tensions s'intensifient au Soudan du Sud, écrit le rapport du secrétariat de l'IGAD, le risque d'une reprise des hostilités généralisées est grand, avec des répercussions lourdes dans toute la région. Afin de faire baisser ces tensions, les chefs d'État est-africains demandent donc d'une part, je cite, « la libération immédiate des fonctionnaires détenus, à moins que des preuves crédibles ne justifient des poursuites judiciaires ». Une enquête est en outre confiée à l'instance de surveillance du cessez-le-feu sur les événements du 7 mars à Nassir. Un général ainsi qu'un employé de l'ONU ont été tués pendant une opération d'évacuation dans la zone de conflit. Décision a également été prise de former une sous-commission sur la mise en œuvre de l'accord de paix au Soudan du Sud. Composée de ministres de la région, elle visitera Djouba très prochainement. En revanche, le communiqué n'évoque pas la présence de soldats ougandais au Soudan du Sud, annoncée par Kampala mardi mais niée par Djouba. Ce déploiement fait craindre une régionalisation du conflit. Florence Mietto, Djouba, RFI.
En football, on connaît désormais les affiches des quarts de finale de la Ligue des Champions. Éliminé par les Anglais d'Aston Villa, le club de Bruges ne poursuit pas son aventure européenne. La formation belge peut nourrir quelques regrets, mais a permis l'éclosion d'un nouveau talent, James Dean Talby, 19 ans, et au cœur d'une bataille entre la fédération belge et marocaine qui souhaite l'attirer en équipe nationale. Mais le jeune ailier a choisi les Lions de l'Atlas, Sofiane Amazian.
Malgré l'écart important avec Aston Villa en huitième de finale de Ligue des Champions, côté club Bruges, James Dean Talby a crevé l'écran. Le natif de Sambreville en Belgique est devenu cette saison le métronome d'une équipe habituée à jouer l'Europe. Pour sa première campagne de Ligue des Champions, l'ailier de 19 ans a grappillé du temps de jeu avant de s'imposer durablement lors du barrage face à l'Atalanta Bergame. Deux buts, une passe décisive sur les deux matchs pour assurer la qualification des Belges. Face à Aston Villa, Talby était à deux doigts d'inscrire un but sublime, mais Emiliano Martinez a réalisé un arrêt de grande classe. Ses prestations ne sont pas passées inaperçues. Les royaumes belges et chérifiens se l'arrachent, mais le jeune espoir a fait son choix, ce sera le Maroc ou rien. Une annonce brutale vécue par la Belgique qui fait face à une fuite de ses talents les plus prometteurs. La fédération a donc pris des mesures, nouvelles règles plus strictes fixées par le directeur technique national et limogeage du responsable des talents chargé des binationaux, Kevin Vermeulen. Au Maroc, James Dean Talby n'est pas assuré de faire partie d'un groupe extrêmement dense en attaque. Au sélectionneur Walid Regragui de trancher ce vendredi.
Sofiane Amazian, et pour accompagner Aston Villa en quart de finale, Arsenal se qualifie après son nul 2-2 face au PSV Eindhoven. Le Borussia Dortmund est venu à bout de Lille 2-1. Enfin, le Real Madrid qualifié au tir au but face à l'Atlético Madrid. Afrique Économie aujourd'hui au Bénin, le Bénin qui développe son secteur touristique. À l'horizon 2030, le pays veut franchir la barre des 2 millions de visiteurs étrangers et doubler ainsi ses revenus liés au tourisme. Pour cela, de nouveaux sites sont modernisés et agrandis. C'est le cas de celui de Ouida, au lieu du tourisme religieux, culturel et historique, à une quarantaine de kilomètres de Cotonou. C'est le site de la célèbre porte du non-retour dédiée à la mémoire de l'esclavage. Reportage Bruno Faure.
Face à la plage, sur le golfe de Guinée, un chantier spectaculaire. La Marina de Ouida, ce sera un hôtel de 130 chambres conçu par un groupe chinois. Des loisirs, des services, un bateau-musée, un parcours sur les lieux de l'embarquement des esclaves africains du 15e au 18e siècle.
Je m'appelle Modesto Ihen, guide touristique. Je fais le Bénin, Togo et le Ghana. Je crois que ce qui se passe actuellement au Bénin, c'est énorme. Déjà, les voies bitumées et la place Vaudou ici à Ouida. Je crois que tout le monde en profite déjà, commençant par ceux qui bâtissent les routes et autres, et nous principalement les guides touristiques et les agences de voyage.
Des bénéfices pour les professionnels, notamment à l'occasion des Vaudou Days, plus de 430 000 visiteurs lors de l'édition 2025, record absolu. Et pour la municipalité de Ouida, le maire Christian Wetchenou.
Aujourd'hui, le programme touristique nous permet d'accroître les ressources propres de la ville. Progressivement, nous passons le budget de la commune. Depuis 2020, nous sommes arrivés où on était à 2 milliards de francs CFA, ce qui fait environ 3 millions d'euros. Nous sommes passés à plus de 4 milliards de francs CFA, ce qui fait 6 millions d'euros aujourd'hui. La plupart de ces ressources sont remises dans le programme de développement de la ville. Il y a une partie qui va pour soutenir les infrastructures culturelles. Nous avons également une partie qui est mise dans la sécurité.
La sécurité avec la création d'une police touristique. Le maire veut multiplier par 10 le nombre de lits d'hébergement, un soutien aux hôteliers et aux restaurateurs comme Clémencia D'Assouza, gérante de la cabane, quelques tables au nouveau centre culturel de la ville.
La qualité des aliments, la propriété, là c'était évident. Donc il fallait rénover, il fallait faire des formations aux employés, les sensibiliser pour que quand les gens viendront, ils ne trouvent rien à dire. Il faut qu'on reçoive seulement des félicitations. Au Bénin, on a un problème et particulièrement à Ouida, les gens n'aiment pas quitter Cotonou. Donc pour avoir cette main-d'œuvre, il faut les aider. Par exemple, trouver un logement pour eux. Donc là, je sais que l'année prochaine, nous allons améliorer cette organisation.
L'an prochain, 2026, la date espérée pour l'ouverture du Musée international de l'histoire de l'esclavage dans le fort portugais de Ouida.
Un reportage signé Bruno Faure. À présent, un peu d'histoire pour terminer avec la sortie d'une compilation consacrée à l'un des plus grands musiciens du Bénin, le légendaire Jonas Pedro, aussi surnommé le roi incontesté de l'abadja moderne. Retour sur la riche carrière de ce monument de la musique béninoise avec Pierre Vallée.
Une carrière très riche en effet qui commence tôt avec un premier succès, le morceau Dadje Vono Vonon. Un morceau typique de l'abadja, un rythme ancestral utilisé pour les cérémonies au sud-ouest du Bénin que Jonas Pedro va électrifier et moderniser. Et c'est sur cette base qu'il va apprendre un premier chemin qui consiste à chanter des reprises ou composer des morceaux inspirés de ceux de Charles Aznavour. Charles Aznavour qui lui donnera même sa bénédiction lors d'une rencontre en Côte d'Ivoire.
Regarde autour de toi et dis-moi, montre-moi parmi ces gens, ce des gens. Le reste n'est qu'illusion, oui je sais. Tu es venu, nu dans ce monde, et puis douceur.
Autre tournant dans la carrière de Jonas Pedro, lorsqu'il s'intéresse et reprend à sa façon la musique cubaine. Disons plutôt qu'il l'intègre au répertoire de son groupe, les Dadje. Un groupe qu'il a formé au début des années 70, véritable machine à groove nourrie d'abadja, de juju, de high life, chantée en mina, en yoruba, en fond, en français ou en espagnol, et qui va propulser Jonas Pedro au rang de superstar dans toute l'Afrique de l'Ouest. Preuve de la qualité du groupe, cette excellente reprise de Yiri Yiri Bom, le classique du chanteur cubain Benny Moré.
Sino vacilo, se come también que para gozar.
Mélanger les rythmes cubains et béninois sera une de ses marques de fabrique. Dans les années 90, il intégrera le groupe de salsa sénégalais Africando, un groupe à la renommée internationale à qui il apportera sa petite touche vaudou. La compilation « Roi de la Badja moderne » vient de sortir sur le label Analog Africa et s'attache à la période des années 70 et 80, période prolifique pendant laquelle Jonas Pedro et les Dadje submergeaient les ondes de Dakar à Lagos.
Mariage, je promets renoncer aux balades, ces pavés parcourus toute la nuit au lendemain. Toutes ces filles que j'ai jadis connues, je les bêche.
Fini les pavés, extrait d'une nouvelle compilation consacrée à Jonas Pedro, l'un des plus grands musiciens du Bénin, pour cette chronique signée Pierre Vallée. Afrique Soir, c'est terminé. Réalisation Jonathan Brady. Attaché d'édition Simon Buil-Baudin, rédacteur en chef Alexis Guilleux. Restez bien à l'écoute. Retour de l'info dans 30 secondes.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Émission spéciale sexualité avec la sexologue Noëlle Caillard-Sy.
Vendredi.
Question de femmes, question de parents, les soins du bébé.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 71 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.